trouverait-il autre chose en Dieu que de la bonté? Même malgré les circonstances que tu traverses, tu peux quand même dire Dieu n'est que bon. Si tu connais Dieu, oui. Et d'ailleurs, ce sera la meilleure manière de sortir de ces circonstances difficiles. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous voyons n'est que temporaire. C'est-à-dire que peut-être que tu lis ton relevé bancaire et tu dis oh, « c'est difficile ». Si tu mets ta confiance en Dieu, ce chiffre n'est que temporaire. Et sa couleur aussi, si elle ne te plaît pas. Hein? Donc, oui, Dieu n'est que bon. Alors, regardez avec moi dans Romains chapitre 5, verset 12. Vous croyez que nous avons une bonne nouvelle ce matin ? Aussi bonne que la louange de tout à l'heure ? Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 12. Alors, voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré. Le péché est entré. Donc le péché n'a pas toujours été là. Mais quand il est entré, des choses ont changé. Par un seul homme, et son nom est Adam, le péché est entré dans le monde, dans notre atmosphère, sur la planète Terre. Il est entré dans le cœur de l'être humain. Et par le péché, la mort, c'est-à-dire que la mort, c'est toute forme de séparation. C'est la séparation d'avec Dieu, qui est une forme de mort. C'est parce que c'est une séparation comme par exemple quand vous dites de quelqu'un qui habite la même ville, peut-être de la même famille, bien vous ne lui parlez plus et vous dites « Ah, pour moi, il est mort hein? ». Donc il y a cette forme de séparation. Quand le péché, qui est une nature spirituelle de l'ennemi de Dieu, est venu dans le monde parce que Adam lui a ouvert l'accès, lui a permis d'entrer, à partir du moment où le péché est entré dans le monde, il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui tout ce qui appartient au péché, et notamment la mort. La première forme de mort est la séparation d'avec Dieu. Dieu est vivant, l'être humain vit dans son corps, mais malgré tout, il y a des tas de gens qui sont encore séparés d'avec Dieu, c'est-à-dire pour eux, Dieu est mort. Et ils n'ont pas la conscience de Dieu. Hein? Mais il y a encore d'autres formes de mort. Il y a, pour certains, il y a une mort intellectuelle. Pour d'autres, il y a une mort. C'est la première forme de mort, c'est la maladie. Ben oui. Hein? Ça peut être la mort d'une réputation, la mort d'une influence, toute forme de mort. La dépression est une forme de mort. La confusion vient avec le péché. En général, quand le péché est venu dans le monde, la peur est rentrée dans le monde. C'est-à-dire qu'avant que cette nature spirituelle vienne dans le monde, il n'y avait pas la peur, il n'y avait pas la honte, il n'y avait pas la condamnation, il n'y avait pas la confusion, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la séparation avec Dieu, il n'y avait pas la séparation avec les êtres humains, il n'y avait rien de tout cela. D'accord ? Regardez avec moi maintenant dans Jean chapitre 1. Donc on voit que c'est vrai qu'aujourd'hui on veut faire des tas de lois pour empêcher tout ce qui est venu avec le péché. On essaie de donner des règles, on essaie de donner des lois, on essaie de donner des commandements. Mais le vrai problème de cette terre et des êtres humains, c'est quoi ? Ben c'est quand le péché est venu. Il est venu parce qu'à un moment, il n'y était pas. Et quand il est venu, toutes sortes de catastrophes sont venues avec. La première chose étant la séparation d'avec un Dieu qui n'est que bon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour nous ramener à lui ? Pour nous permettre une communion avec lui, mais pas que, pour nous permettre de vivre avec lui. Comme avant le péché, il fallait que Dieu se débrouille pour régler le problème du péché. Nous sommes d'accord, puisque c'était ça qui était à l'origine de tous les problèmes. Il fallait donc qu'il se débrouille pour régler le problème du péché. Et s'il arrivait à trouver un plan qui règle le problème du péché, alors la vie changerait à nouveau, mais dans le bon sens cette fois-ci. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 29. Écoutez ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui quoi? Qui ôte quoi? Le péché. Le problème, apparemment, Dieu a trouvé une solution. Il est d'accord. Le problème, c'est que le péché est venu dans le cœur de l'être humain. Cette nature spirituelle qui est contraire à celle de Dieu a provoqué des ravages sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il nous est dit, qui était annoncé des siècles et des siècles et des siècles avant? Dieu a un bon plan. Il va s'occuper du problème et on peut très bien comprendre que s'il prend le problème à la racine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fruits vont changer. Le péché est venu dans le monde et la mort a ravagé tout ce qu'il y avait sur cette planète. La confusion et tout, tout ce que l'on voit dans l'Épître aux Galates, que ce soit aussi la sorcellerie, que ce soit l'idolâtrie, que ce soit toutes ces choses. Dieu devait s'occuper du péché pour que les choses changent réellement. Et un jour, on entend une voix sur cette terre qui dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et un jour, on entend « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Encore, là, je vais juste vous lire, écoutez, 1 Jean chapitre 3, verset 5. Donc, c'est fait, Jésus apparut. Il est venu pour ôter les péchés. Une autre version dit, or, vous savez que pour enlever nos péchés, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Je vais remettre ça. Maintenant, dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux chapitre 9. Vous savez, nous sommes en train de parler en ce jour de Pâques de la résurrection de Jésus. Mais on ne peut pas célébrer la résurrection si on ne comprend pas la mort. On ne sait pas quels sont les effets de la résurrection si on ne comprend pas quels étaient les effets de la mort. Et moi, je crois qu'on va être bien encouragés. Quand on va sortir d'ici, on va être vraiment encouragés. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 9, verset 12. Il nous est dit de Jésus, il est entré une fois pour toutes, et ensuite, c'était son propre sang, et c'est ainsi qu'au moyen de sa propre personne, il nous a assuré un salut éternel. Dans cette autre version, c'est ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous savons que Jésus est venu afin d'ôter le péché du monde. Alors, on pourrait dire, oui, mais tu sais, on voit quand même que sur la planète Terre, il y a le péché. Oui, c'est vrai. Il y a encore le péché qui est bien vivant sur cette planète Terre à cause de ceux qui veulent bien s'y donner et y céder. Mais ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, oui, pour ôter le péché du monde, et le plan était d'obtenir un salut éternel, c'est-à-dire d'obtenir une réconciliation avec Dieu. Et dans cette réconciliation, Jésus donnerait sa vie à celui qui voudrait bien accepter son sacrifice. Et quand il est dit que Jésus est venu afin d'ôter le péché du monde, il est venu ôter le péché dans le cœur de celui qui accepterait le sacrifice sur la croix, parce que le prix était payé. Un jour viendra où il n'y aura plus du tout la présence du péché sur cette terre. Pour l'instant, on voit, oui, que chez chaque personne qui a accepté le Seigneur Jésus, qui a reconnu le sacrifice qui a été fait à la croix, chez celui-là, eh bien, la nature du péché a été ôtée, et à la place, la nature de Dieu, la vie même de Dieu, qui s'appelle la vie éternelle, a été mise dans le cœur de l'individu. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous avez deux vies en vous. Vous avez la vie que vos parents vous ont transmise et qui est dans votre corps. Et vous avez la vie de Dieu dans votre être intérieur, dans votre cœur. Et le choix que nous avons en tant que chrétiens est, est-ce que je vais laisser la vie de Dieu se manifester ou est-ce que je vais laisser ma vie humaine se manifester? La vie humaine qui a été soumise à l'éducation que j'ai reçue, qui a été soumise aux circonstances que j'ai reçues, qui a été soumise aux expériences que j'ai vécues, et la vie de Dieu qui, elle, vient directement d'en haut. C'est énorme, c'est énorme. Mais oui, Jésus est venu ôter le péché. Tu as accepté Jésus, alors l'agneau de Dieu, tu l'as accepté à ôter la nature du péché qui était dans ton être intérieur. Et aujourd'hui, tu peux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Hébreux chapitre 9, il est dit au verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » C'est-à-dire que la relation est possible à nouveau avec le Père, parce que le prix a été payé afin que nous soyons pardonnés. Quand Jésus est mort, il est mort afin qu'il n'y ait plus de barrière entre Dieu et nous. Il n'y a que le pardon qui reste. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas peur de nous approcher de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous aimons louer le Seigneur avec joie, avec liberté, parce que nous n'avons pas peur de notre Dieu. Hébreux chapitre 9, je vous lis une autre version qui dit « En fait, on peut dire que sous l'ancienne alliance, on pouvait tout, presque tout, purifier par l'aspersion du sang. Et les péchés ne peuvent pas être pardonnés si le sang n'a pas coulé. Nous devions recevoir le pardon de nos péchés pour retrouver une communion avec Dieu. » Tu vois, il fallait que non seulement le Seigneur retire la nature du péché qui était en nous, mais il fallait qu'il nous pardonne les péchés que nous avions commis. Parce que sinon, on n'aurait pas été libre vis-à-vis de Dieu. Nous aurions été sous la condamnation. Et le Seigneur dit, maintenant, vous allez vivre votre vraie liberté. Alors, que s'est-il passé? Non seulement, eh bien, Jésus est venu et son sang a été versé pour que nous soyons pardonnés, Jésus est mort. Et rappelez-vous que le Seigneur devait s'occuper du péché. Le Seigneur s'est occupé du problème du péché lors de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de son Fils. C'était ça le plan. Et c'est un plan qui était insensé. La Bible nous dit que ce plan est une folie pour ceux qui sont sages. Aujourd'hui, combien de gens, quand on leur dit, mais bien sûr que Dieu veut une amitié avec toi, grâce à la mort et à l'ensevelissement et à la résurrection de son Fils, tous les sages de notre planète disent, pof, c'est de la folie. Oui, peut-être, mais ça s'appelle la sagesse de Dieu. Non seulement l'agneau de Dieu, quand il est venu sur terre, a été reconnu, Jésus, comme étant celui qui ôterait les péchés du monde. Mais on voit plus tard que dans l'Épître et dans l'Épître de Jean, il est dit « Il apparut afin d'ôter les péchés, afin que par sa mort, nous puissions retrouver une communion, une union avec Dieu comme Adam et Ève l'avaient avant la chute. Dans le dernier livre de la Bible, je vous le lis, il est dit « L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ». Voyez-vous, la mort de Jésus, l'idée du sacrifice trouve son origine au ciel. La mort de Jésus n'était pas l'idée des hommes, ça n'était pas l'idée des Romains. Jésus est mort afin que le problème du péché soit réglé dans le cœur de l'homme et que grâce au choix que ferait l'homme qui a une nature nouvelle, le péché n'ait plus libre cours sur cette terre. Rappelons-nous que si le Seigneur arrivait à régler le problème du péché, il arriverait à régler le problème de la peur. Aujourd'hui, un chrétien qui est né de nouveau n'a plus à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que la Bible dit que nous avons en nous une nature de vainqueur. Mais il y a encore autre chose, quelque chose de merveilleux. Quand le péché est entré, quand le péché est venu, il a amené la mort sous toutes ses formes. Et rappelez-vous, je vous ai dit, une des choses qu'il a amené a été la maladie. Je me demande, quand Jésus est mort pour les péchés, a-t-il réussi à vaincre le problème de la maladie? Parce que si la maladie est une conséquence du fait que le péché soit rentré dans le monde, alors la solution pour le péché doit être la solution pour la maladie. Donc, il faut que l'on sache, parce que si, quand Jésus est mort à la croix, il a traité le problème du péché, il a résolu le problème du péché, alors il a dû aussi résoudre les conséquences. Le péché est entré et la mort est entrée avec lui. Parce que si nous pouvons trouver ce que Jésus a réellement fait à la croix, peut-être que nous découvrirons que Dieu nous veut en bonne santé parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons guéris et pour que nous restions en bonne santé pour ceux qui le sont déjà. Tu comprends que la question « Dieu veut-il que je sois en bonne santé ?» parce qu'il y a tant de chrétiens qui croient que Dieu nous veut malades, la réponse se trouve à la croix. La réponse se trouve dans ce que Dieu a fait vis-à-vis du péché. Si vraiment Dieu a réglé le problème du péché, alors, dans ce même événement, il a dû régler le problème des conséquences de la présence du péché. Alors, c'est ce qu'il va falloir que l'on trouve. Regardez avec moi. Oh, gloire à Dieu. Colossiens, chapitre 1, c'est énorme. Vous savez, l'Évangile est prêché jusqu'à aujourd'hui et il trouve peu d'oreilles attentives. Mais ceux qui entendent l'Évangile, alors ceux-là peuvent entendre la meilleure des nouvelles qu'ils ont jamais entendues de leur vie. Parce que c'est une nouvelle qui n'est pas seulement une nouvelle comme on entend aux informations, c'est une nouvelle qui libère la puissance qu'elle annonce chez celui qui entend la nouvelle. C'est-à-dire, celui qui entend la nouvelle que les péchés ont été pardonnés à la croix, quand il entend cette nouvelle, au moment où il entend cette nouvelle qui s'est accomplie il y a 2000 ans, au moment où il l'entend par la foi, il l'expérimente. Expérimente la liberté de quelqu'un qui est pardonné. Si les conséquences du péché ont été réglées à la croix, alors celui qui est malade, en entendant cette bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, reçoit sa guérison. Je pense que certains, ça doit être l'heure de décalage qui... Il y a un petit décalage là, non ? dans la réflexion, non? Vous avez trouvé Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Il est dit « Rendez grâce au Père ». Donc, apparemment, on a tous des raisons de dire « Merci mon Dieu ». Il dit qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. Quelqu'un dit « Il m'a délivré ». Il nous a délivrés de quoi ? De la puissance des ténèbres. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre dans ce mot « ténèbres » ? Péché, maladie, peur, pression, oppression, dépression, toutes sortes d'émotions. Le manque sous toutes ses formes, l'avilissement, la déchéance, les mauvais souvenirs, la pauvreté, les blessures, tout ce qui appartient aux ténèbres, le Seigneur dit, il nous a délivrés. Alors tu dis, oui, mais ben, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse quand on entend cette bonne nouvelle ? Accepter de penser ce que la Bible dit qui est vrai de nous. Tant que l'on dit « Ah oui, mais… » Non, on entend une bonne nouvelle, on dit « Ah bon ? C'est vrai ? Waouh, gloire à Dieu, je suis libre !» Tu sais, tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui est libre. Tu ne peux pas l'empêcher d'avoir des projets, tu ne peux pas l'empêcher de réussir. Tu ne peux pas l'empêcher de vivre dans la paix. Tu ne peux pas l'empêcher de vivre dans la joie. Et ça, mes amis, c'est la vie du ressuscité. Il est dit, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est frais, c'est fait. Tu dis, ben alors, comment ça se fait que le diable arrive encore à asservir des gens, à les rendre esclaves? Tu sais comment? Uniquement en leur mentant, uniquement en leur faisant croire « Oui, mais pas toi, j'ai encore de la puissance sur toi. » Ça, c'est un mensonge. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des ténèbres, mais il ne nous a pas délivrés des ténèbres pour nous lâcher dans l'ozone. Il ne nous a pas délivrés des ténèbres pour nous laisser quelque part à flotter. Non! La Bible dit, il nous a délivrés des ténèbres et il ne s'est pas arrêté là. Il y a certains qui comprennent pourquoi il flotte. Non, justement, vous ne devriez pas. Hein? Il est dit, et il nous a transportés. Il nous transportera. Il nous a transportés. La nature spirituelle que tu as reçue de Dieu, en même temps, t'a placé sous la domination d'un Dieu d'amour. Tu fais partie maintenant de son royaume. C'est-à-dire de sa juridiction. Là où il y a la bénédiction, là où il y a la vie, là où il y a un futur, là où il n'y a aucun manque, là où il y a la guérison, là où il y a la santé, là où il y a la restauration. Il nous a transportés. Moi, j'ai une question. Pourquoi vivrions-nous en deçà de ce qui est vrai de nous? Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas les trois quarts du temps, ou on choisit de croire autre chose. Vous savez, quand on va arriver au ciel, on va tous réaliser à côté de combien de choses merveilleuses nous sommes passés sur terre. On va dire, c'est pas possible que j'ai vécu toute ma vie sans ça, alors que tout était à moi. Pourquoi j'ai eu peur de me lancer par la foi ? Il est dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une autre version dit, il nous a délivrés de la puissance ou autorité des ténèbres et nous a transportés. Le verbe délivrer, c'est secouru en grec. Une autre version dit, c'était lui qui nous a secourus de la puissance des ténèbres et qui nous a établis comme citoyens dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a secourus, dit une autre version, de la domination des ténèbres. Question, est-ce que la maladie fait partie des ténèbres? Oui. La maladie est une ennemie, nous sommes d'accord. La maladie est venue quand la nature spirituelle du péché est venue sur cette terre, nous sommes d'accord. Et la Bible nous dit le sang a déjà coulé. Le prix a déjà été payé pour que nos péchés soient pardonnés, ce qui veut dire que je n'ai pas à accepter les conséquences du péché comme si Christ n'avait rien fait. Quelque chose a été fait, mais je dois l'entendre. Et quand je l'entends, je dois y croire. Une autre version dit « Il nous a secourus de la domination des ténèbres et nous a transférés. » Tu as déjà transféré de l'argent d'une banque à une autre banque. Un transfert s'est fait. Nous avions la nature du péché en nous. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons reçu la nature du Père. Et au même instant, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous avons été transférés sous le règne de Dieu. Pourquoi avoir peur de lui obéir? Pourquoi avoir peur de croire ce qu'il dit de nous? Regardez avec moi maintenant dans, Ésaïe. Donc nous sommes d'accord, le problème du péché a été réglé. Nous sommes d'accord, le sang a été coulé, a coulé. Jésus est mort sur la croix. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais quand il y a l'effusion de sang, qu'est-ce qu'il y a? C'est mathématique. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avec l'effusion de sang, ben, il y a le pardon. Est-ce que l'effusion de sang a eu lieu? Est-ce que Jésus a versé son sang à la croix? Alors, nous sommes pardonnés. Alors, si nous sommes pardonnés, pourquoi devrions-nous rester malades? Non, mais il faut que tu répondes à cela. Tu dois répondre à cela. Si, quand le péché est venu dans le monde, la maladie est venue avec, si le problème du péché a été réglé à la croix, et pour Dieu, ça a été réglé puisqu'il a ressuscité son Fils, qui est la preuve que le paiement a eu lieu. La résurrection est la preuve que le paiement a satisfait celui qui recevait le paiement. Nous sommes d'accord. Puisque le paiement a eu lieu, pourquoi accepterais-tu de porter la maladie qui n'est qu'une conséquence de la venue du péché sur cette terre? Pourquoi? Pourquoi acceptes-tu qu'elle s'attache à ton corps? Pourquoi acceptes-tu d'être victime de la maladie? Bon, maintenant, si tu as quelque chose à changer dans ta façon de manger, peut-être que tu veux y réfléchir, hein? Mais quand même, pourquoi la maladie aurait-elle autorité de s'attacher à ton corps alors que tu as en toi la vie du ressuscité et que tu as été placé dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Tu peux répondre à cette question? Parce que la prochaine fois que la maladie va frapper à ta porte, il va falloir que tu répondes quelque chose. Et il y en a qui disent « j'arrive » parce qu'ils sont habitués depuis des années. C'est normal, c'est dans notre famille, c'est normal. Non, pas depuis que Jésus est mort. Il y en a qui disent « attends ». Et il y en a qui disent « pas ici. Ton entrée, ton installation, ton implantation est illégale. » Je le fais. Ésaïe 54. J'espère qu'il y a quelqu'un qui boue sur sa chaise, non? Ésaïe 53. Oh là 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 là, nous sommes beaucoup plus libres que ce que nous pensons. La Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais mes amis, on n'a pas réalisé ce que c'était de vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il faut que nous cherchions ce que c'est. Ésaïe, vous avez trouvé? 53, regardez ce qu'il est dit ici, verset 53, verset 4. Il est dit, en parlant de Jésus, bon, il y aurait tellement de choses à dire avant, mais « Cependant, ce sont nos souffrances, et c'est le mot maladie hein, en hébreu, qu'il a portées. » La maladie, écoutez bien, c'est quelque chose qui se porte. Comme tu portes tes vêtements. La maladie, c'est quelque chose qui se porte. Ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Une douleur, c'est une charge qui vient. C'est un poids. En parlant de Jésus, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, quelqu'un dit mais. Il était blessé pour nos péchés. Ah, la solution de Dieu, c'était de lui faire porter nos péchés. De l'identifier à nous, afin que nous puissions être identifiés à lui dans son règne. Il a pris notre identité de pécheur pour que nous puissions être comme lui, enfant de Dieu. Il est dit, il était blessé pour nos péchés. Ici, mes amis, on a le plan de Dieu qui est écrit 500 ans à l'avance. Mais bien avant encore, il avait été annoncé. Mais ici, c'est un tel détail. Un tel détail, il est dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc on sait qu'ici, c'est le problème du péché qui est en train d'être réglé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quelle est la suite? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est valable pour la paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus tourmentés vis-à-vis de ce qu'on croit que Dieu pense de nous. On n'est pas tourmenté. On est à l'aise dans notre relation avec Dieu. On est en paix parce que la paix, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Il a réglé le prix. La relation est claire, la réconciliation a eu lieu. On est en paix, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre entre Dieu et nous. Il n'est pas en colère contre nous. Le prix a été réglé. Mais cela veut dire aussi le châtiment qui nous donne la paix. Personne n'a besoin de vivre tourmenté sur cette terre. Personne n'a besoin de vivre avec la confusion, la peur, ou une instabilité mentale, ou une déficience intellectuelle. Personne qui a accepté que le prix de ses péchés soit payé. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Quelqu'un dit, il y a plus encore. Comme si ce n'était déjà pas suffisant. Le Seigneur a été jusqu'au bout et il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vois-tu, quand Jésus est allé à la croix, il a payé le prix pour régler le problème du péché. Et pour celui qui accepterait ce prix, en plus, il dit, on va aller jusqu'au bout, on va s'occuper des conséquences. C'est-à-dire la victoire sur la maladie. Jésus s'est chargé, il a porté la maladie afin que nous n'ayons pas à la porter. Expliquez-moi comment on peut aujourd'hui encore entendre dans des églises, Dieu veut que tu sois malade. La personne est en train de me dire que Dieu n'a pas payé pour le prix, il n'a pas payé pour le péché. Ça veut dire que le prix est incomplet. Ça veut dire que ça n'a pas été réglé. Qu'est-ce que Jésus n'aurait pas fait à la croix? À côté de quoi serait-il passé? Non, le prix du péché a été payé et en même temps, la guérison est à la disposition de tous. Jésus est mort pour tous, la guérison est pour tous. Jésus est mort pour
tous,
la guérison est pour
tous.
Est-ce que tu peux dire Jésus est mort pour moi, la guérison est pour moi? Exactement. Exactement. Regardez maintenant, je vais juste vous lire ces versions. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction gage de paix pour nous était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Une autre version dit en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé de Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions. Il était en train de payer le prix. Écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Une autre version dit, or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Apparemment, elles ne peuvent pas. C'est-à-dire que vous comprenez, la maladie peut atteindre ou peut ne pas atteindre. Mais on est tellement habitué à ce que la maladie fasse partie de l'humanité. On est tellement habitué qu'on la porte rien qu'à la nouvelle que l'on entend aux informations. Il y a un virus, vous avez des tas de personnes qui sont prêtes à porter. Porter. Porter ce que nos parents, grands-parents ont porté. Porter ce que, en Europe, on porte. Dans d'autres pays, ils ne portent pas. Mais en Europe, on est habitué à porter tel type de maladie, donc c'est normal. En Europe, on porte cela. Et personne ne se pose de questions. Et encore moins les chrétiens qui justifient la présence de la maladie dans leur vie. Non, mes amis, la maladie n'a plus le droit de nous atteindre. C'est illégal parce que le prix a été payé, d'autant plus que nous l'avons accepté. Il est dit, or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensons que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par les faits de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Dis, je suis acquitté. Il a reçu les coups, nous sommes épargnés. Dis, je suis épargné. Regardez-moi le psaume 103. Psaume 103, tournez à gauche. Mes amis, quelle nouvelle. Quand on parle de la résurrection, vous comprenez que ce qui se passait à la croix, il y avait ce que les Romains, ce que les Juifs, ce que les différents passants voyaient, et il y avait tout ce qui était en train de se faire dans l'esprit. Dieu le Père qui règle le compte du péché, Dieu le Père qui reprend l'autorité que le diable avait sur l'humanité, Dieu le Père qui s'attend à avoir une récolte d'hommes et de femmes à travers tous les siècles, qui naîtrait de nouveau, qui serait investi de l'autorité divine, qui connaîtrait leurs droits, qui régnerait dans la vie et qui démontrerait la puissance de la résurrection. Est-ce que nous sommes de cela?
Amen.
Quatre personnes. Psaume 103, regardez avec moi, verset 1. Mon âme, David parle à son âme. Et il dit mon âme, l'âme c'est le siège des émotions, de la volonté et de l'intelligence. Il est en train de dire, mon âme, bénis l'Éternel. Quelquefois quand tu ne te sens pas de... Tu dis, ah, je me sens blague, c'est mince, ah, j'ai pas la pêche. Pour d'autres, c'est j'ai pas la frite. Pour d'autres, c'est j'ai pas le moral. Pour d'autres, c'est j'ai le blues. Pour d'autres, c'est étonnant. Toutes les expressions que l'on a pour parler de nos émotions. Mais David, lui, parlait à ses émotions. Il dit, mon âme, tu vas bénir l'Éternel. Et ensuite, il dit pourquoi ? Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui, quoi, ensemble, pardonne toutes tes iniquités et quoi, qui guérit toutes tes maladies. Là où il y a le pardon, il y a la guérison. Les deux sont indissociables. Ne croyez pas que Dieu a pardonné nos péchés et qu'il nous veut malades en même temps. C'est un non-sens. Le plan de Dieu était qu'il pardonne les péchés, qu'il règle le problème du péché et qu'en même temps, il s'occupe des conséquences. Amen. C'est exactement comme je l'ai souvent exprimé. Si par exemple, vous avez une odeur de poisson dans votre cuisine, qu'est-ce que ça vous dit ? Vide la poubelle, il y a du poisson dedans. Non ? Pour certains, ça n'a pas l'air de se passer comme ça. Alors, sur Terre, jusqu'à présent, ça se passe comme ça. Hein ? Si tu as une odeur de poisson dans ta cuisine, ça veut dire qu'il y a eu la présence d'un poisson et si ça persiste, vérifie ta poubelle et vide-la de préférence. Bien. Certains, qu'est-ce qu'ils font ? Le problème, on a un problème, c'est le poisson. Parce qu'il y a un poisson dans la cuisine, il y a l'odeur. Est-ce que ce ne serait pas ridicule de prendre un spray et de se débarrasser de l'odeur sans régler le problème du poisson ? Le problème n'est pas l'odeur, le problème c'est le poisson. Donc qu'est-ce que l'on fait ? On prend le poisson, on s'en débarrasse et sans spray, on sait que ça n'est qu'une question de temps avant que l'odeur disparaisse. Je répète, on règle le problème du poisson. Et ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas besoin d'être nerveux, il y a juste besoin de comprendre ce qui se passe et pour les chrétiens de dire ce qui est vrai. Le problème du péché a été réglé, je refuse de l'odeur de la maladie chez moi. Comment dire à un chrétien ? Non, tu sais, Dieu a réglé le problème du poisson, mais tu sais quoi ? Tu dois garder l'odeur. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Oui, c'est que ça pue. Voilà, j'ai compris la leçon. Ça ne me plaît pas du tout. Puisque le problème du poisson a été réglé, alors en même temps, en même temps, le problème de l'odeur a été réglé. Et ici, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et c'est le même qui, en même temps, te guérit de toutes tes maladies. Vous permettez que l'on regarde un dernier verset ensemble ? Regardez avec moi dans Marc chapitre 2. Franchement, il n'y a pas besoin de compliquer, c'est simple. C'est simple. Il a fallu des religieux pour compliquer l'histoire. Vous avez trouvé Marc chapitre 2. Bien, regardez à partir du verset 1. Et vous allez bien lire ce qui s'est passé ici. Et vous allez comprendre ce que Jésus était en train d'annoncer. Mais ceci est vrai pour nous. Quelques jours après, verset 1, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit, c'est plutôt une civière, hein, c'est, n'imaginez pas un baldaquin qui descend, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, écoutez bien, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On dit, attends, il aurait dû dire autre chose. Il aurait dû dire, bah, t'es guéri. Ce qu'il a dit à d'autres. Mais ici, il va à la source, il dit, mon enfant, il dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de poissons, hein. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et puis il dit, écoutez bien, il dit, lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit cela? Il a un paralytique qui lui est présenté par quatre amis et au lieu de lui parler de la santé, il lui parle de la racine. Il dit, ben c'est très simple. Il dit, tes péchés sont pardonnés, ce qui revient la même chose que de dire, tu es guéri. Ça revient à la même chose. Et il dit, si je t'avais dit, tu es guéri, ça veut dire que ton problème est réglé vis-à-vis de Dieu. Alors tu le prends comme tu veux. Vous comprenez combien c'est terrible quand un chrétien marche et vit sous la condamnation et dans la culpabilité, parce qu'il trouvera toujours une raison de porter la maladie. C'est horrible, la condamnation et l'infériorité sont détestables. D'où l'importance de s'assurer que l'on entend la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne rendra jamais quelqu'un inférieur, ne condamnera pas, mais au contraire, elle nous permet de voir la réalité de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection. Tu sais, si tu veux te décharger de maladie, assure-toi que tu te concentres sur ce que Jésus a fait. Assure-toi que tu te concentres sur lui. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez compris que quand Jésus est venu, oui, il a paru afin d'ôter les péchés. Mais moi, je pense qu'on devait voir le Père au ciel. D'ailleurs, il faudra qu'il nous dise un peu comment il a vécu l'événement. Mais il devait... Tu sais, c'est quelquefois, quand tu sais que tu vas avoir une bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu trépignes d'impatience. Tu dis, oh là 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 là, j'ai hâte. Oh là 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 là. Waouh, tu te frottes les mains. Et tu... Moi, je pense que quand Jean-Baptiste a annoncé par l'onction... Voici l'agneau qui ôte les péchés, le Père devait être, waouh, ça y est, le plan est amorcé sur la terre, ça y est, ils vont recevoir leur guérison, ça y est, plus d'esclaves de la maladie, ça y est, les malades mentaux peuvent être délivrés, ça y est, ceux qui sont dans la peur, la confusion peuvent sortir libres, les aveugles peuvent recouvrer la vue, les captifs peuvent sortir de leur prison. Nous pouvons tous penser de la pensée de Dieu. Le Père devait trépigner de joie, un peu comme l'Église en ce moment d'ailleurs. Ah, quand même. Ouh, gloire à Dieu! 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 Alors moi, je vous recommande de réécouter et réécouter.